Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les grandes gueules du sport. On est ravis d'être avec vous comme tous les week-ends de 9h à midi. Vous êtes aussi nos grandes gueules du sport, vous le savez, au 32-16 ou sur WhatsApp au 06-12-424-424. Envoyez au message et participez avec nous. Dites-nous ce que vous faites. Je sais pas, si vous êtes en train de vous entraîner ce matin sur le châtrier, par exemple, en train de se préparer pour Roland Garros. Les grandes gueules du sport, on va mettre tous les micros en place parce que tous les micros ne sont pas en place pour l'émission avec Jérôme Pinault ce matin. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut à tous.
Ça va Jérôme?
Écoute, la grande forme. Grosse forme. Petite chaleur dans la chambre cette nuit, mais tout va bien.
Ah, parce que tu arrives à Paris, tu es 35 degrés.
Ça. Ils n'ont pas l'habitude, a priori. Ils n'avaient pas regardé la météo. Ils n'ont pas encore mis en route la météo.
Sur des grands tours, sur un Tour de France, un hôtel où il n'y a pas de climatisation. De toute façon, vous ne mettez pas la clim sur le tour, parce que sinon, vous prenez.
Pas de clim sur le tour.
Vous êtes malade derrière.
Serviette humide, il faut tout ce qui. On ouvre la fenêtre, mais pas de coup de froid. Un coup de froid interdit.
C'est vrai, bon. On est en début de troisième semaine du Giro, là. Habituellement, on est comment en début de troisième semaine d'un grand tour?
On finit la deuxième semaine d'abord.
Il
y a encore une journée de repos.
Ouais.
En général, là, tu commences à être carbo, tu joues sur. C'est la tête maintenant.
Tu dors bien le soir?
Tu dors bien, dormir. Moi, j'ai toujours bien dormi.
C'est vrai?
C'est se réveiller qui est plus compliqué.
Simon Dutin est là. Salut Simon.
Salut Georges, salut tout le monde.
Tu dors bien toi en ce moment?
Moi, je dors bien, mais alors jamais de clim nulle part. Grand tour, deuxième semaine de grand tour, première nuit de vacances.
On se souvient d'ailleurs de ta super Vuelta il y a trois ans.
Je rate le coche sur la Vuelta.
Ça joue pas à grand chose.
Clim,
Tu l'as dans l'angliru à cause de...
Quand tu es supporter des Girondins, tu prends la clim souvent.
Excellent,
quand même.
Parce que je te la mets souvent en studio aussi. Voilà.
Bon, là, bah, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont à se raconter leur vie et tout. Je faisais tout simplement du temps parce que tous les micros n'étaient pas installés. On est tout à fait transparent. On a une dream team de rêve de tennis à un jour de Roland-Garros. Marion Bartoli, bonjour.
Bonjour Georges Quirino. Et avant de commencer sur mes propos personnels, de toute façon, je parle beaucoup trop de moi tout au long de l'année. Je souhaite un très joyeux anniversaire à mon mari que j'aime très fort.
Oh, bah c'est sympa,
c'est
ça.
Mignon.
C'est bien. Bah, n'hésitez pas à appeler nous pour souhaiter bon anniversaire à votre frère, à votre soeur. Ça marche comme
bonjour
ça.
Bonjour à mon cousin, ça va bien. En plus, c'est vrai.
Ça va,
oui, ça va. Et vous?
Bah oui, très bien. Tiens, les amis, je demandais à Jérôme comment il était avant une troisième semaine de Giro ou à la fin d'une deuxième semaine. On est comment à un jour de Roland-Garros quand on est joueuse habituellement? On dort bien? On mange bien, Marion?
Ouais, tout dépend un petit peu des semaines qui ont précédé, on va dire. Ça dépend de la confiance.
Bien.
De la confiance accumulée ou pas. Mais il y a toujours beaucoup de stress de toute façon.
Ouais, t'es jamais très détendu.
Ouais. Mais il faut jamais être très détendu.
Tu regardes une série pendant toute la journée?
Non,
et
du tout.
À autre chose.
Non, on est concentré sur les entraînements, sur la préparation physique, sur la préparation du match, la tactique, où on étudie le jeu de l'adversaire. Et puis surtout, il faut pas être trop détendu parce qu'en fait, le stress, c'est ce qui te permet d'être en alerte. Donc il faut juste avoir le bon niveau de stress pour pas être totalement tétanisé, mais arriver à performer. Et puis il y a toujours beaucoup d'excitation parce que jouer dans le public français, rentrer sur le châtrier ou le Langlen, c'est quand même un moment toujours particulier dans une carrière.
Alizé, toi t'étais comment? Déjà t'avais pas dormi depuis une semaine.
Oui, puisque j'étais insomniaque. Donc... Oui, en général pas mal de tension, pas mal d'excitation aussi. C'est un mélange, un combo. Et Mario l'a très bien résumé en fait. C'est garder cet équilibre et pas faire en sorte que le stress ne prenne pas complètement le dessus sur l'excitation. Mais c'est un moteur vraiment très important. Le stress, c'est pas bon signe de prendre les choses trop à la légère.
Ben voilà, si on a des joueurs et joueuses qui nous écoutent.
Prends note, Georges.
Ce matin,
nous, quand on est
avant
en
les émissions,
en
faut pas prendre trop à la légère.
Ah oui, c'est vrai.
En tant que coureur cycliste, quand on est sur la période de Roland, on est souvent en stage en altitude en Sierra Nevada.
Ah ouais?
Ah, j'ai des souvenirs de sieste incroyables devant Roland Garros. 14h30 après la collation.
Ça berce bien.
Ah ouais, le bruit de la balle.
Avec le cri de Rafa en fonte.
C'est ça, 14h en première semaine, Rafa, patron.
Non, tu disais, non, aujourd'hui je ne fais pas ma sortie à vélo parce qu'il y a Bartoli ou Cornet qui jouent.
Exactement. Voilà. Alors je levais le pied dans la
sortie. En première semaine, t'avais encore une chance de me voir. C'est marrant parce qu'il n'y a pas Fred et je me auto-tacle. C'est incroyable. J'ai tellement l'habitude de me faire tacler par Fred que quand il n'est pas là, je le fais moi-même.
Et vous faisiez la même chose quand Jérôme Pinault était sur le vélo, non? Vous arrêtez vos entraînements.
Exactement.
Ouais. J'ai jamais regardé de cyclisme à la télé.
C'est bien l'avoué.
Ça se voit, ça s'entend.
Allez, allez, grande du sport, jusqu'à midi, à 10h sur le ring. On est donc à J-1 de Roland-Garros, même si ça a commencé depuis plusieurs jours. Hein, il y a les qualifs et tout ça. Un tournoi marqué pour l'instant par la grogne de certains joueurs et joueuses sur la répartition des revenus du tournoi. Soutenez-vous la révolte des stars. Vous votez sur le compte XDGG du sport à 10h30 du rugby. Finale de la Champions Cup entre l'UBB et le Leinster à 15h45. C'est à suivre sur RMC, sur place à Bilbao. On ira tout à l'heure là-bas au Pays Basque. Les Bordelais veulent dire que l'étoile gagnée l'an passé n'est pas une étoile filante. Est-ce que l'UBB est déjà un grand club? Sur le buzzer du football, avec la finale de la Ligue des Champions féminine à 18h, Lyon-Barça, ce sera sur RMC également. Est-ce que le foot féminin a besoin d'une grande rivalité? Et puis le zapping, on sera à San Antonio après le match 3 perdu par Wemby en finale de conférence cette nuit. Le j'y crois pas. Et le vestiaire, on va recevoir ici, les amis, une autre championne, Manon Appiti, championne olympique d'escrime à Paris 2024. Elle publie aux éditions Robert Laffont L'or de la vie, dépasser mes peurs et mes limites. Avec elle et tous ensemble, on va parler de comment travailler le mental, comment se construit un mental dans le sport de haut niveau. En fin d'émission, participez au jeu du sport.
Oh là là.
Et là, le regard de Marc.
Alors, là.
Ce week-end, super cadeau en plus, vous gagnez un séjour dans un des 400 campings Homer, des campings 4 à 5 étoiles situés en France et en Europe. Vous voyagez selon vos envies, hein, de 2 nuits à 1 semaine, jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 32 16 touche 4, ou envoyez sport, S-P-O-R-T.
Bien, Georges.
Au 7-32-16.
Je suis fier de toi.
Sport au 7-32-16. Tu sais, moi, je fonctionne sous pression. Hein. Mesdames, donc au terme d'une saison de rêve, Lens, et oui, Lens a soulevé pour la première fois la Coupe de France hier soir.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour cette finale de la Coupe de France. Florian Thauvin envoie tout de suite le ballon dans la moitié de terrain niçoise pour mettre la pression et la première frappe de cette rencontre. Oh, c'était la reprise de volée de Jean-Michel Larquet en 75.
Il était persuadé que Gallou allait toucher le ballon, donc il n'a pas préparé son geste.
Minutes, c'est parti, ce deuxième poteau, la tête,
il n'a pas été dangereux, c'est facile, le saut, n'est-ce pas Jean-Louis, Thauvin, buteur, passeur.
Pour l'instant, c'est l'homme du match. Alors, le corner pour Jonathan Clauss. Pied droit. C'est parti pour Clauss. La dérivation. Premier poteau. Le but.
But contre son camp.
L'OGC Nice qui revient.
Le but.
La Coupe de France peut-être pour le Racing Club de Lens. 3-1. C'est fini. La Coupe de France 2026 est au Racing Club de Lens. C'est Lensois qui ont écrit l'histoire de leur club, puisque pour la première fois, Lens remporte la Coupe de France. C'est la conclusion d'une saison formidable pour les hommes de Pierre Sage.
Eh oui, c'est le tube du week-end là, effectivement, avec Lens, vainqueur de la Coupe de France, Jean-Louis Tour, Jean Baumel et Jean-Michel Larquet aux commentaires sur RMC. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'écoute Jean-Michel Larquet aux commentaires, ça me redonne des frissons. Hein. C'est Madeleine de Proust, ça me rappelle l'enfance, évidemment, d'écouter Jean-Michel. La Coupe de France sans erreur ce matin pour la première fois en 109 éditions. Lens, pour la saison de ses 120 ans, s'est imposé 3-1 face à Nice en finale au Stade de France, au plus grand bonheur des 60 000 spectateurs lensois présents hier soir. Les buteurs Thauvin, Edouard et Sima, épilogue magnifique d'une saison impressionnante des hommes de Pierre Sage après leur place de dauphin du PSG en Ligue 1. Les GG, je vous pose la question ce matin. Attention, les mots ont un sens.
Oui.
Comme d'habitude. La saison de Lens est-elle un exploit? Mario Bartoli.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Alizé Cornet.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
Nous avons donc 3 oui et 1 non. Celui de Jérôme Pinault, supporter lensois. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp, évidemment, même si vous n'avez pas dormi. Surtout si vous n'avez pas dormi. Lui n'a pas dormi également, c'est Kevin Morand, notre envoyé spécial de RMC à Bollard toute la nuit. Salut Kevin.
Salut Georges, salut GG.
Et oui, parce
salut
que les joueurs sont revenus très tard avec la coupe hier. Raconte-nous la fête sans erreur, Kevin.
Oui, alors déjà après l'explosion de joie au coup de sifflet final au stade Bollard, les 38 000 supporters restés à Lens pour suivre le match sur l'écran géant n'avaient qu'une envie, c'était fêter ça le plus longtemps possible. Écoutez.
Bon,
formidable, incroyable. On n'en revient pas. C'était émouvant. Là, c'est la première et il ne faut pas l'oublier. Il faut surtout fêter ça.
Jusque tout le week-end.
Très heureuse, très émue. On était très contents de partager ce moment, la convivialité, la ferveur.
On va juste pleurer parce que voilà, on l'a gagné.
Oh, c'est magnifique. Et c'est le plus beau rêve de ma vie.
On peut voir la coupe.
Et elle est arrivée à Bollard, cette coupe à 4h du matin, en quart avec les joueurs qui ont présenté donc cette première Coupe de France de l'histoire du club devant 15 à 20 000 spectateurs. Plus d'une demi-heure de fête, le gardien Robin Risser a couru vers les virages avec cette coupe. L'attaquant Florian Thauvin, les yeux rougis, et l'entraîneur Pierre Sage notamment sont montés sur le promontoire avec les leaders des Ultras Lensois.
Je suis très ému, très très content de célébrer ça avec le public. Ils étaient nombreux au Stade de France, ils étaient nombreux à Bollard. Ils nous ont attendus jusqu'à 4h du matin. Ils sont fantastiques. On les remercie pour ça. On a vécu une saison magnifique. Maintenant, c'est écrit dans l'histoire, donc tellement fier.
C'est le plus grand des honneurs, en fin de compte, parce que rendre les gens heureux, c'est une des missions qui nous incombe. Et ce soir, on a relevé le défi, donc tant mieux.
Ah, on y est là dans la nuit lensoise. On le ressent dans ses réactions. Il y a eu, Kevin, une vraie communion entre l'équipe et le public encore cette nuit. Hein.
Oui, à l'image de cette chenille lancée sur les coups de 4h30, non seulement en tribune mais aussi sur la pelouse avec les joueurs, le staff et même le président Ogourian. La coupe a été transmise aux supporters. Quelques-uns ont donc pu l'avoir dans leurs mains. Certains étaient aussi un peu plus tôt au Stade de France. Ils ont fait la route comme les joueurs pour être à Bollard pour ce retour des héros. Écoutez.
On était obligés là. On a fait le match, maintenant on fête avec eux. Oh,
fabuleux moment, extraordinaire. Il fallait faire tout le parcours, il le mérite.
C'était magnifique, cette soirée elle est incroyable et je pense que ça restera gravé dans la mémoire de Lens.
On ne peut pas décrire ça. La ferveur est très fière de très fière.
Et donc les corons ont été chantés a cappella par le public en pleine nuit artésienne. La fête continuera aujourd'hui avec une parade dans le centre de Lens à partir de 15h et une réception à l'hôtel de ville autour de 16h30.
Ah, la fête n'est pas prête de s'arrêter effectivement. Merci Kevin, bonne nuit, bonjour, je sais pas quoi te dire. En tout cas, merci d'avoir veillé pour faire vivre ce matin aux auditeurs et auditrices d'RMC cette fête interminable des Lensois. La saison de Lens est-elle un exploit? Tiens Marion, on va commencer par toi. Tu dis oui, toi, plutôt.
Oui, absolument. Alors, bien évidemment que Lens est un club historique, mais malgré ça, ils ont 120 ans d'existence et ils n'avaient qu'un trophée. Ils ont un palmarès extrêmement limité. Avant le trophée d'hier soir, ils n'ont été champions de France qu'à une seule reprise, en 98. Et c'est la première fois qu'ils remportent cette Coupe de France. Donc déjà, pour le nombre de titres accumulés en 120 ans et le fait qu'ils en obtiennent un hier, c'est absolument historique. Je pense pas, dans la mémoire collective, qu'on se souviendra forcément de leur deuxième place en 2023 ou leur deuxième place en 2026.
Mais les trophées.
Exactement. Mais les lignes de palmarès et les trophées dans la vitrine, c'est ça qui reste. Et franchement, pour moi, hier, d'avoir obtenu ce trophée, d'avoir cette ligne de palmarès, alors qu'en plus, il y a bien évidemment l'ogre parisien avec un budget qui n'a absolument rien à voir, parce qu'il faut quand même se rendre compte que Lens est le 11e budget de Ligue 1. Lens a la moitié du budget de Nice. La moitié. On parle de 60 millions contre 120 millions pour Nice. Donc faire avec, entre guillemets, aussi peu, je mets beaucoup de guillemets parce que ça reste des sommes importantes, mais au vu du foot, c'est peu. Arriver à faire une saison pareille, arriver à avoir un collectif pareil, on a entendu Pierre Sage, le travail effectué par Pierre Sage a été absolument monumental, et puis surtout la constance. Mais pour moi, cette ligne de palmarès, au vu de ce que le club a obtenu en 120 ans d'existence, c'est ça que je trouve exceptionnel. Et de le banaliser, ça serait quasiment leur faire offense. Donc oui, bien sûr, c'est un réel exploit. Et surtout qu'ils arrivent à le faire, alors qu'il y a Paris qui archidomine, qui a quasiment un milliard de budget. Donc pour tout ça, j'argumenterai sur le reste ensuite. Mais pour moi, oui, bien évidemment, ça reste un moment exceptionnel.
L'exploit pour la dimension historique et pour les moyens par rapport à d'autres, effectivement, t'es pas d'accord, Jérôme, toi. C'est le terme exploit qui te dérange.
Oui, voilà, c'est juste ça. Moi, je suis admiratif du parcours. Quand on suit le Racing Club de Lens de très près et qu'on voit comment travaille Jean-Louis Lec avec Pierre Sage, avec le recrutement aussi, qui a été très très bon, le recrutement avec des Thauvin, on a été chercher des Sars, Saint-Maximin. Qui voulait être Saint-Maximin? Personne. Ils ont réussi à le faire venir pour un homme qui s'appelle Jean-Louis Lec. C'est ça, la bonne histoire, la belle histoire de cette équipe cette année. Après, pour moi, l'exploit, c'est de battre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France ou de gagner le titre.
Mais ils n'ont jamais gagné. Oui, quand tu n'as jamais gagné un trophée, c'est
la
par
saison,
définition un exploit.
Historique,
mais non, ils ont déjà fini deuxième en 2023.
Oui, mais l'exploit, c'est de battre plus fort que toi.
Et ils l'ont pas fait. Ils étaient dans la compétition. Non, mais ça, c'est la même chose que
mais
de
ils l'ont
dire.
Pas fait en,
non, mais Jérôme, c'est exactement.
Direct,
mais oui, mais c'est comme
PFC
si tu me dis. Si tu me dis à Serena dans un tableau de Grand Chelem et tu gagnes Grand Chelem, mais tu l'as pas battu en confrontation directe. Mais je suis désolée, t'es dans le tableau. Donc c'est exactement la même chose.
Oui, mais sauf que tu n'as pas battu l'imbattable.
Tu as battu l'imbattable.
Tu as pas battu le Paris Saint-Germain.
Tu as battu toutes les équipes qui étaient présentées devant toi.
Attention, je ne minimise pas la performance du RC Lens. Je dis juste que pour moi.
Ils l'ont jamais gagné.
On les attendait pas forcément là. Donc c'est un exploit quand même.
Ah, tu ne les attends pas. Encore une fois, le budget. Quand tu vois comment est géré le budget de l'OGC Nice, qui est l'actionnaire, tu es qu'à peine étonné qu'ils soient en finale de la Coupe de France. Ce qui est surprenant, c'est de les voir en Ligue 2. Mais quand le budget est mal utilisé, tu peux aussi faire.
Je rappelle que
notre club de cœur est le deuxième budget de Ligue 1. On n'est pas
mais
du tout à la
base. C'est même pas ça.
Trop une logique, cette question de
non,
budget.
Non, mais c'est même pas ça. Quand on regarde les saisons passées et les classements du RC Lens, ils sont quand même plutôt en train d'évoluer entre la 8e, 7e place.
Ah, ils sont fait quand même deuxième l'année dernière.
Deuxième en 2023. Ils ont passé 5 saisons en Ligue 2. Et c'était extrêmement récent. Donc, c'est un club qui, au départ, avec le budget qu'ils ont, le recrutement qu'ils ont fait, ont surperformé. Et pour tout ça, oui, ça reste un exploit. Vois,
Mariette sur WhatsApp, fidèle auditrice, me dit, Lens, un exploit. Si on prend cette équipe sur plusieurs saisons, oui, c'est un exploit. Mais si on ne prend que cette saison, non. Lens a tout simplement été dans une progression maîtrisée.
C'est la deuxième meilleure équipe de France.
À ce qu'ils ont montré, Simon.
Oui, enfin, progression maîtrisée, on les a pas mis sur un tapis roulant pour qu'ils aillent chercher des trophées. La progression, il faut la créer.
En fait, ils ont changé la moitié de l'effectif à l'intersaison, de coach également.
Et tu perds des cadres, des gens qui étaient importants dans les bons résultats déjà du RC Lens les dernières saisons. Samba, Danso, Kusano, Frankowski, Medina, tout ça dans le désordre et pas forcément au même moment. C'est un club qui nous a habitués à faire beaucoup avec moins, avec peu de moyens. Voilà.
Mais ça travaille bien.
Voilà, ça te presse des litres de jus avec 2-3 oranges seulement. Et en plus, on a changé les oranges. Et il y en a moins que les saisons précédentes, que les récoltes précédentes. Puisque le budget a été, on a été obligé de réduire la voilure. Marion soulignait qu'ils sont vraiment à mi-championnat au niveau du budget. Il y avait le pari Pierre Sage qui a pris, et là où je rejoins Jérôme, c'est que tu sais, il y avait un slogan dans les années 80 qu'on avait entendu quand on était enfant: on n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées, tu vois.
Ouais, c'est vrai, ça marche.
Il y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si les paris de Thauvin et Saint-Maximin
n'avaient pas fonctionné?
On aurait dit, mais c'est catastrophique, c'est des mecs, ces gars-là, ils sont cramés pour le foot de haut niveau, ils sont allés à l'étranger, ils ont plus envie, ils sont plus, c'est pas des joueurs capables de se fondre dans un collectif.
Mais là, c'est un club qui marche comme ça aussi, sur des coups.
Qui magnifie.
Thauvin
et Saint-Maximin, ça cristallise quand même tout ce qu'on reproche parfois aux footballeurs de haut niveau, c'est-à-dire le talent, mais pas l'investissement. Et voilà. Et pour revenir sur le côté exploit, alors certes, il y a des clubs qui ont fait le doublé dans les années récente, mais des clubs qui terminent à la fois deuxième de Ligue 1 et qui remportent la Coupe de France, ça n'arrive jamais.
Non, mais
Auxerre l'a fait en 2003, je crois, sauf erreur de ma part, mais le PSG gagne 70% du temps la Coupe de France. Donc quand tu t'accroches pour être le meilleur des équipes hors PSG et remporter la Coupe de France,
c'est énorme.
Fais forcément une saison exceptionnelle.
Moi, ce que je trouve intéressant, on peut en parler à Lisée sur cette équipe lensoise, on a parlé des moyens, on a parlé de l'histoire, mais il y a aussi les joueurs qui ne sont pas forcément programmés pour ça. En début de saison, c'est-à-dire que t'es pas programmé pour être une équipe championne, pour gagner un trophée. Quand tu arrives à surperformer, non mais mentalement, quand t'es un sportif de haut niveau, faut pas minimiser ce que quand t'arrives à avoir une saison comme ça.
Et il faut pas minimiser non plus la continuité du travail qui a été effectué. Alors peut-être que le mot exploit, il est un peu fort pour toi,
c'est
Jérôme.
Pour ça, c'est juste le mot. Hein. Moi, je suis admiratif de ce qui s'est passé.
C'est sacrée performance.
Bien sûr, c'est exceptionnel.
Comme tu l'as dit, Georges, de la part des joueurs.
Exploit, non.
Qui exactement sont peut-être pas forcément destinés à cette saison-là. Ils finissent quand même deuxième du championnat. Ils gagnent le plus grand trophée de leur club. Le mot exploit, il est quand même pas si loin, moi, je trouve, dans la terminologie.
C'est historique.
Oui, c'est historique, clairement. Et quand on voit la ferveur qui s'ensuit, on sent que ça, on sait pas si ça va se reproduire d'ici peu. En tout cas, ça s'est pas produit sur les 120 dernières années, comme l'a dit Marion. Mais cette continuité dans le travail pour arriver à un accomplissement tel, pour moi, c'est quand même, de la très, très grande performance. Voire de l'exploit pour un club qui est pas forcément
destiné. Il y a des valeurs aussi dans ce club. La preuve hier, la passation avec Gourlian et Gervais Martel était sur la pelouse.
Le président historique.
C'est un club qui, selon moi, a tout compris. C'est un club qui a effectivement pas les plus gros moyens, mais il y a une structure direction sportive, il y a une structure recrutement, il y a du passé,
C'est l'exemple à suivre.
Pour moi, c'est un, il y a beaucoup de clubs qui peuvent s'en inspirer.
Mais tu sais, tu parlais de pas gagné en battant les meilleurs, entre guillemets, qui est un grand débat. Effectivement, est-ce que ça a plus de valeur ou moins de valeur de gagner la même coupe, mais en ne battant pas les meilleurs?
Pour moi, oui.
Est-ce que tu te rappelleras dans 20 ans, si on te dit, Jérôme, tu te rappelles en 2026 quand Lens a gagné la Coupe de France, tu sais qui avait battu le PSG? Je pense pas qu'on s'en souviendra. Tu te diras, bah non, mais Lens a gagné. On se souviendra pas que c'est Paris FC qui a éliminé Paris SG, en fait. Mmh. Tu te souviens du vainqueur, tu te souviens de celui qui soulève la coupe.
La saison, elle est magnifique, et je dis pas le contraire. Je te dis que ils font deuxième du championnat. C'est la deuxième meilleure équipe de France sur le papier. Le Paris Saint-Germain, grand favori, qui est éliminé prématurément de cette compétition, ça en fait de Lens le deuxième. L'ogre, derrière, tout le monde ne voulait pas.
Marseille pouvait la gagner. Il y a plein d'équipes qui pouvaient la gagner
Marseille, mais honnêtement,
non, mais tu vois, c'est là où ça représente l'exploit.
Bah, tu vois, une finale de Coupe de France où tu gagnes devant l'ultra favori, c'est l'exploit. L'autre partie, c'est historique, c'est phénoménal, c'est sensationnel parce qu'ils ont fait un parcours incroyable en battant tout le monde, et ils ont été battre Lyon chez eux. Ils ont fait des grands matchs.
Ça mériterait un autre débat. Est-ce que c'est plus dur de gagner quand t'es archi favori?
Ouais.
Ou de gagner quand t'as rien à perdre.
On continuera à parler dans quelques instants. Oui, on peut en parler justement sur les statuts, la faculté justement à réussir à performer quand t'es pas forcément attendu. Est-ce que Lens, avec sa saison, a réussi à un exploit à supporter Lensois? Bah, on vous attend au 32-16. Là, vous êtes nombreux à nous appeler et on va vous prendre dans un instant dans les grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
En France, on n'a pas de pétrole.
Les grandes gueules du sport.
Mais on a des idées.
Georges Quirino.
Oh, la réactivité de notre réalisateur Alban Azaïs pour nous amener les bons extraits pour revenir sur cette victoire lensoise. Tiens, avant de continuer à en parler sur RMC, aujourd'hui vous pouvez jouer à la liste des 26, vous le savez, pour remporter 10 000 euros. Vous avez bien entendu, vous choisissez votre joueur préféré. Là, j'ai un tableau derrière moi avec tous les joueurs de l'équipe de France et vous gagnez 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel et la boîte Lego du trophée. On a vu la Coupe du Monde en Lego hier, franchement, ça donne envie. Restez bien à l'écoute, c'est au moment du top inscription, hein, soyez bien attentifs. Vous aurez 5 minutes pour envoyer liste, L-I-S-T-E, au 732-16.
Et tu progresses, hein, je suis impressionné.
732-16.
Je veux la jeunesse de la vanne sur l'orthographe de genre.
Il a fait une faute, c'est même pas une faute, c'était j'étais effondré. Tu vois, de ma chaise, je suis tombé.
Mais sport pour liste.
On est parti de plus bas que ça.
J'ai vu une saison plein de petits traumatismes avec Marion. Je veux plus parler en anglais à côté d'elle, par exemple.
Ah, non, ça, c'est vrai. Ça, je suis confiant.
Confiance. Tiens, j'ai un message de Romain sur WhatsApp. 06 12 424 424. Ce club de Lens, il me fait rêver. L'unité des joueurs, les valeurs, la ferveur, le respect des supporters, il est magnifique à tous les niveaux, ce club. Et encore plus quand il gagne. En tant que supporter de l'OM, on ne vit pas ce genre d'émotion, on va dire Romain sur WhatsApp au 32-16. On vous attend, supporter lensois. Tiens, Grégoire nous appelle de Tourcoing ce matin. Salut Grégoire.
Salut les GG.
Salut. Comment, la nuit a été courte?
Félicitations.
Il n'y a pas eu de nuit.
Ouais. Bah écoutez, moi c'est un peu particulier parce que mon frère se marie aujourd'hui, donc j'ai malheureusement pas pu assister à la fête. Malheureusement, ça reste le mariage de mon frère quand même. Hein,
Il met un maillot sans or et une cravate et il va se marier.
Hein. Donc hier, j'avais le cœur déchiré parce que j'ai ma section bus magique qui est partie sans moi et voilà, qui est partie représenter la région, le nord dans Paris. Ils ont même dans le cortège croisé Yohann Lachor, je sais pas si ça vous parle,
mais c'est quand
même
sûr,
qui nous a donné la victoire en 98. Mmh. Non, franchement, admiratif de cette équipe, mais un coup le pas parce que en début de saison, moi j'y croyais pas en pire ça, je vous le dis en toute honnêteté.
Ah ouais.
Et il m'a fait. Moi je sors du premier match Lens Lyon où on perd 1-0 et je me dis ça va être le même cinéma qu'avec Will Steel, je vous le dis en toute honnêteté. Hein. Et franchement, il m'a fait taire très clairement.
C'est un exploit pour toi, ce que vous avez accompli là avec votre coach, avec un effectif changé à moitié cette saison.
Mais pour moi, c'est clairement un exploit. C'est un exploit pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs paris dans cette équipe. On a un Robin Risser, c'est sa première saison en Ligue 1. Vous imaginez?
Ah oui.
Il finit dans les 26 des Bleus. On a Florian Thauvin, on a un Lassa Maximin, que des paris en fait qui ont été faits dans cette équipe. Un Mamadou Sangaré qui finit avec le trophée Marc Bienfoy. C'est que des paris réussis et un travail de fond qui est fantastique. Et franchement, comme disait Joseph Hougourlian, on a bouffé de la merde pendant des années. Et là, cette année, je peux vous dire, là, cette saison, on savoure. Bravo à tous. On est dauphin du PSG. On gagne la Coupe de France. Je pense qu'on est la plus belle équipe de Ligue 1 cette année. Alors, il y a le PSG, bien sûr, hein, qui est dans une autre, sur une autre planète.
Ouais, bien sûr.
Franchement, quelle fierté.
Mais non, mais là, vous avez gagné la médaille du kiff. Hein, je pense cette année, les supporters lensois avec tout ce que vous avez vécu, c'est évident. Thierry Grégoire parlait. Je te remercie de l'avoir appelé au 32-16 de Pierre Sage, qui n'y croyait pas forcément en début de saison. On rappelle, il arrivait après son expérience lyonnaise notamment, où il avait d'ailleurs été débarqué alors que ça marchait plutôt bien pour lui. Simon, c'est vrai, il faut rendre hommage aussi à Pierre Sage. Quand on parle de dimension d'exploit, ce que Pierre Sage arrive à accomplir, c'est un exploit d'arriver avec un nouvel effectif.
Bah, c'est un exploit, d'autant plus que il y a peut-être un petit creux générationnel au niveau des entraîneurs français, qu'on attend cette nouvelle génération, cette jeune génération, je dirais entre guillemets, et on a tendance à vouloir parfois mettre la charrue avant les bœufs. Pierre Sage, il s'est fait remarquer en étant l'adjoint d'Habib Bey au Red Star. En national, si je dis pas de bêtises, et il est arrivé auréolé, tu sais, de cette espèce de réputation de les petits génies du foot français, quoi. Et effectivement, parachuté dans son club de cœur, je le dis d'autant plus honnêtement que j'ai mis certaines réserves malgré certains résultats encourageants au début de son expérience lyonnaise. Voilà, faut toujours faire attention avec des entraîneurs qui n'ont pas encore accompli des choses. Et c'est à mettre à son crédit, au crédit de la direction lensoise, d'avoir tenté le pari Pierre Sage, parce que, toute proportion gardée, Will Steel, c'était un petit peu le même profil d'entraîneur. Il sortait d'une expérience réussie à Reims, un club encore un petit peu plus sous-dimensionné par rapport à Lens. Et voilà, crédit à la direction lensoise d'avoir tenté ce pari alors que tu aurais pu, aller chercher quelqu'un de plus expérimenté pour te remettre de l'expérience Will Steel. Et encore une fois, avec un matériau brut qui, sur le papier, est pas dingue, on l'a rappelé, le budget.
Oui, mais c'est la tactique, Pierre Sage. Ah ben c'est vraiment la tactique, c'est un disciple de Guardiola.
Et donc Pierre Sage a fait manger son chapeau à tous ceux qui doutaient de lui, parmi lesquels je m'inclus. Et c'est d'autant plus méritoire.
Ouais, les anciens sportifs de haut niveau, il y a des coachs qui vous font surperformer. Il y a des coachs qui vous rentrent dans la tête, qui arrivent à débloquer quelque chose et à vous faire à atteindre un niveau au-delà des 100%, des 110%, je sais pas, Alizé.
C'est aussi une question d'alchimie. Ça veut dire qu'il y a des très très bons entraîneurs qui vont être hyper efficaces et performants avec certains types d'athlètes. Et puis il y a d'autres athlètes avec qui ça a peut-être un peu moins fonctionné. C'est aussi normal. Là, je pense que au sein du club de Lens, il y a une certaine alchimie qui s'est créée aussi. Et c'est pour ça que les résultats sont arrivés. Alors, les très 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 grands entraîneurs, c'est ceux qui arrivent à s'adapter en fonction du public qu'ils ont. Voilà, c'est vraiment personnaliser leur entraînement. Alors nous, dans le sport individuel, c'est encore plus marqué parce qu'au final, on entraîne en face à face, en one to one. Donc on peut vraiment personnaliser l'entraînement. Mais j'imagine que dans les sports co, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, on prend pas le club de Lyon comme on prend le club de Lens. Alors il y a forcément des choses qui reviennent. Et comme le disait Marion, il s'est forcément appuyé sur son aspect un peu stratège et sur sa tactique. Mais le management d'être humain,
c'est déterminant ce que tu disais, parce que c'est vrai que Pierre Sage, il s'est fondu dans l'environnement lensois. Avec les habitants, avec l'environnement du Nord.
Il ne faut pas oublier ses prédécesseurs non plus, que ce qui a été fait avant Pierre. Lens est bon à entraîner tous les deux ans. Will Steel est arrivé dans une saison où il a fallu vendre, il a fallu reconstruire. Et c'est le système Hougourlian qui veut ça. Très bien, tant que les bas ne sont pas si bas, tout va bien. On l'a vu hier, la déclaration de Pierre Sage après le match. J'ai beaucoup de sollicitations, j'espère pouvoir honorer mon contrat. S'il y a beaucoup de ventes, ce qui devrait arriver à Lens cet été, pas sûr que le plus grand tacticien qui arrive avec un autre effectif puisse réaliser la régularité.
Il n'est pas interdit de penser que c'est un peu de com' et que Pierre Sage a accepté un salaire, qu'il y a eu un deal en
possible,
disant...
Non, mais possible, Simon, possible.
Je te dis
que Lens, une saison sur deux, c'est plus compliqué à faire que...
Il va arriver avec les reçus en disant, écoute, deuxième de Ligue 1...
Il n'a même pas plus de droits de télé.
Je ne demande pas un saladier, mais un petit effort.
On verra avec les champions l'année prochaine, ce sera autre chose à gérer, évidemment, Marion.
Alors, j'ai plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Tout d'abord, pour ce qui est du foot en tout cas, et je pense que c'est quand même d'une certaine manière la même chose pour le tennis, les grands entraîneurs, donc on peut mettre Guardiola, on peut mettre Mourinho, on pourrait en citer deux ou trois autres, c'est pas eux qui s'adaptent au club, c'est l'effectif qui s'adapte à eux. Et d'ailleurs, ils font un recrutement en fonction de leur type de jeu pratiqué, Et là, pour Pierre Sage, c'est vraiment très très clair. C'est un circuit de passe, c'est beaucoup de pressing, c'est vraiment un disciple de Guardiola et s'est inspiré de ces méthodes-là. Là où c'est différent par rapport à Pep, c'est que Pep a une méthode de management qui est extrêmement dure, extrêmement rigide. Il y a énormément de vidéos dans les vestiaires où il regarde ses joueurs droit dans les yeux parce qu'ils ont été mauvais.
Et Pierre Sage est un personnage plus rond.
Voilà. Et il te les massacre.
C'est pas le même niveau d'exigence. Alors, avec les très grands joueurs que tu peux avoir à City.
Exactement. Mais si tu veux, non, mais quand tu vois Pep à Barcelone, quand tu vois Pep à City,
mais
il
n'a jamais été à Lens. Hein.
Il se comporte de la même façon. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, par exemple, en tennis, nous, on avait Tony Nadal. Tony Nadal, quand tu s'entraînais, il s'occupait de Rafa, et que tu vas aujourd'hui dans son académie et que tu as envie de devenir joueur de tennis professionnel, il va te parler comme s'il parlait à Rafa. Après, tu es en capacité de l'intégrer.
Je suis pas trop d'accord là-dessus, Marion. Je trouve que dans le tennis, c'est un peu différent.
Il y a des entraîneurs qui ont envie de s'adapter, t'as des entraîneurs où tu y vas pour un certain discours. Et soit tu es capable de l'encaisser et tu y vas, soit tu dis non, ça me convient pas et tu vas pas vers cet entraîneur-là. Mais on sait très bien qu'il y a des entraîneurs où tu dis voilà, ils ont leur méthode, comme Philippe Lucas, par exemple, en natation. Et donc, à ce moment-là, soit tu es en capacité d'avoir un groupe qui avait à réagir à ça, soit effectivement, on l'a vu à l'Olympique de Marseille, t'as ton groupe qui se fracture, t'as un moment donné où il y a des joueurs qui ne répondent pas à ça, et donc tu les perds.
Mais ta mission en tant que manager, c'est pas d'emmener tout le monde avec toi,
Exactement, mais du coup, là-dedans, Pierre Sage, moi je trouve, a la très bonne balance.
Il est entre les deux, exactement.
Exactement, c'est-à-dire qu'il a le côté très humain, où il est proche de son effectif, où il va arriver à avoir ce côté vraiment un petit peu papa, mais quasiment. Et cette partie, oui, il a des idées de jeu très marquées, ça prend très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que on a aussi les deux extrêmes. On a des gens, effectivement, qui vont se dire, moi, je vais m'adapter systématiquement aux joueurs ou au projet ou à l'équipe. Et puis, on en a d'autres qui se disent, non, moi, je suis désolé, c'est entre guillemets moi le meilleur. Et donc, soit vous vous adaptez à moi, soit vous vous adaptez pas. Et puis, c'est
tout. Vous avez de la fin là-dessus, Alizé?
Non, pour moi, les entraîneurs qui imposent trop leur vision sans s'adapter au public qu'ils ont, c'est pas des entraîneurs qui sont allés tout au bout du chemin. Voilà. Et je trouve que cet équilibre dont vous parlez apparemment visiblement à propos de Pierre Sage. Pour moi, c'est l'idéal. C'est un entraîneur. Et pour moi, Philippe Lucas, je ne sais pas si c'est le bon exemple. Parce que, et même Tony Nadal, ça a été un très bon entraîneur, mais c'est quand même des entraîneurs qui ont un petit peu trop la main mise sur le projet de l'athlète et c'est pas forcément super sain sur le long terme.
Non mais c'est vrai que
quand tu fais gagner autant, tu peux pas dire que c'est pas un bon entraîneur. Enfin, je suis désolée,
j'ai pas dit que c'était pas des bons entraîneurs. J'ai dit que c'était pas forcément.
Fait gagner un joueur. Voilà. Un gars capable de.
C'est quand même toujours mieux que zéro. Et c'est pas la plus saine non plus.
En fait, les amis, c'est très simple. Il n'y a pas une façon de gagner. Il y a des entraîneurs qui sont très dogmatiques, qui arrivent à fonctionner. Il y a des entraîneurs très pragmatiques qui arrivent à marcher.
Ce que vient de dire Marion, c'est ce qui se rejoint, c'est que quand les meilleurs, quelle que soit la méthode, même si t'es dur, c'est le meilleur. Donc il finit par gagner.
Exactement.
Moi, je suis pragmatique, je m'adapte à tout le monde.
Heureusement.
Non, toi, c'est l'école des fans, tout le monde gagne à la fin.
Bravo. Pierre Sage, les Lensois, en tout cas, vainqueur de la Coupe de France, on va suivre le retour des héros. Enfin, ils y sont déjà, mais la fête tout au long de la journée sur RMC, évidemment. Allez, dans un instant, le zapping. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
On va l'instant sur le ring, on va parler de Roland Garros. Ça commence demain. Est-ce que vous soutenez la révolte des joueurs qui demandent une meilleure répartition des revenus, surtout les stars? On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp pour en parler. Tout de suite, les GG, vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. En NBA cette nuit, les Spurs de Wemby battus à domicile 123-108 par le Thunder d'Oklahoma City. Simon Dutin.
Je ne m'en fous pas.
Mario Bartoli.
Je m'en fous pas.
Alizé Cornet.
Je m'en fous.
Jérôme Pinault.
Non, je m'en fous pas. Ouais.
Alizé, elle aime quand ça gagne.
C'est juste si Fred m'écoute comme ça.
Un petit taquet à Fred Weiss. Salut Fred. C'était le match 3 en finale de conférence Ouest hier. 26 points, 4 rebonds pour Wemby. Les Spurs sont désormais menés 2-1 dans la confrontation. Je rappelle que c'est la première équipe à remporter 4 matchs qui se qualifient en finale NBA. Félix Gabory est l'envoyé spécial, le chanceux de RMC à San Antonio et il veille pour nous. Salut Félix.
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Félix. Bon, en même temps, on t'a envoyé le bout du monde quand même. Heureusement que tu veilles pour nous. Tu étais dans la salle.
Oui, bien sûr. C'est pas mal pour moi les horaires. C'est un peu mieux que vous quand même.
Tu étais dans la salle cette nuit, Félix. Raconte-nous l'ambiance sur place et l'état d'esprit de Wemby après cette rencontre.
Ouais, et bien le privilège quand on est de la même nationalité que la star locale, c'est qu'on a eu le droit à un joli clin d'œil des Jackals. C'est le groupe de supporters créé par Wemby.
Qui ne sentait pas n'est pas le Spurs.
Ça, c'était avant le match et ils étaient déjà bien chauds, mais l'ambiance est encore montée d'un cran au moment de l'annonce des joueurs. Galvanisés par cette ambiance des très grands soirs, les Spurs ont réalisé un début de match de dingue avec un 15-0 en moins de 3 minutes pour commencer la rencontre. Sur ce début de match, Wemby a notamment fait exploser la salle sur un 3 points. Le problème, c'est qu'OKC a fait le dos rond et a progressivement repris la main sur cette rencontre. Au final, le champion en titre a nettement dominé les Spurs. Après le match, Wembanyama s'en voulait de ne pas offrir la victoire à son public, alors que son équipe avait pris le meilleur départ.
Chaque fois qu'on vient à la maison, l'énergie est incroyable. Sur le moment, je disais qu'on s'est mis dans les bonnes conditions pour commencer le match. Et il me semble que c'est la première fois qu'on perd un match après avoir commencé aussi.
Le match 4 de cette finale de conférence aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi et ça sera toujours à San Antonio.
Merci Félix. Depuis San Antonio, Simon, Wemby mené là, c'est, ça peut être chaud hein, pour les Spurs. Hein.
Oui, bah, ils ont perdu l'avantage du terrain. Voilà, je pense qu'ils ont un petit peu agacé les reigning champs en allant prendre ce premier match.
Les champions en titre.
Avec ouais, la manière. Donc voilà, bah, c'est l'apprentissage qui se poursuit. Hein,
c'est le banc aussi d'OKC hein, qui a fait une grande différence. Hein,
voilà, et au bout d'un moment, voilà, le plus fort l'emporte. Mais dans la construction de Wemby et de ses petits potes autour de lui pour viser le titre un de ces jours, voilà, faut rappeler que c'est une équipe extrêmement jeune qui n'a pas le même vécu que Oklahoma. Et puis voilà.
Oklahoma qui était une équipe jeune l'année dernière et qui a réussi à gagner. Hein, voilà.
Oui, mais regarde, ils ont gagné au KC. Après le 15-0 initial, effectivement, comme ça a été expliqué, c'est Alex Caruso qui sort du banc, qui marque les 5 premiers points pour revenir. Et ensuite, en fait, ils ont lissé leur effort. Et même si leur MVP, le Canadien, il n'a pas marqué pendant le premier carton, en fait, il a été déterminant tout au long du match. Et ils arrivent finalement à être peut-être moins explosifs au départ, mais au final, sur la longueur et la durée, à prendre le dessus. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a l'impression que même si Victor est extrêmement performant et on le voit encore avec le nombre de points inscrits hier qui est de 26 points, bah au final le reste de l'équipe et en particulier le banc des Spurs ont du mal à faire la différence.
C'est la jeunesse aussi d'un effectif qui
exactement.
S'est un peu emballé,
et ça m'inquiète.
Il n'avait pas joué un match de playoff à domicile depuis 10 ans avec un D'Aaron Fox qui n'est pas là.
D'Aaron Fox était là, il a eu une blessure,
ils ont récupéré Julian Harper et il n'est plus que l'ombre du joueur au salaire maximum qui... qu'il est censé être.
Oui, oui, mais bon, c'était pas à 100%, peut-être qu'ils le seront pour le match 4. Allez, on zappe. Je m'en fous pas, les amis, du rugby. Il va y avoir un crunch entre la France et l'Angleterre aujourd'hui à Bordeaux. Alizé.
Je m'en fous pas.
Marion.
Non, je m'en fous pas.
Jérôme.
Je m'en fous pas.
Dis-moi ce que tu penses vraiment, Jérôme.
Il s'en fout.
Ah, j'ai mon copain Cédric qui est là-bas.
Simon.
Je m'en fous pas, Cédric.
Un crunch un peu spécial, puisqu'il s'agit de la première édition du Crunch Creator. C'est un événement inédit qui verra s'affronter d'anciens joueurs pro et des créateurs de contenu. Ça va jouer à guichet fermé au Matmut Atlantique. Hein. 38 000 places ont été vendues. C'est une idée d'influenceur Diego Sartou qui veut réinventer un peu le monde du rugby. Là, une GG va y participer. C'est notre Cédric Evans qui a entraîné les troupes. Oui. Salut Cédric.
Bonjour à tous, moi
salut
je m'en
Cédric.
Fous
pas, hein. Salut Cédric.
Bah t'imagines si tu t'en fous alors que t'es sur place, mais c'est quoi ce bon, hey, Cédric, je voulais juste te demander, est-ce que le rugby a besoin de ce genre d'événement justement, parce que c'est inédit hein.
Oui, bien sûr que le rugby en a besoin. Ça fait, il y a beaucoup de monde dans les tribunes qui connaissent pas forcément le rugby. Ça aide à trouver de nouveaux horizons pour ce sport qui est, on va dire, médiatiquement inférieur au football. Donc dès qu'on parle de rugby, de toute façon, ça sert. Hein.
Ouais, ça sert. Ça va ressembler à quoi ce soir, Cédric? Tu le
racontes. C'est la grande question. Non. On s'est concernant l'équipe de France, on s'est entraîné. On a fait 5-6 entraînements. On est là depuis jeudi. On répète la mise en place. Il y a beaucoup de stress de la part des joueurs. On l'a joué un peu à l'ancienne, donc on s'est caché dans les tribunes pour voir les Anglais, comment ils se préparaient. Non, ils ont l'air plus athlétiques que nous, mais je pense que dans la folie du rugby à la française, on va pouvoir les faire déjouer et les faire bouger.
On va citer quand même le nom des anciens joueurs.
Bah oui, j'allais demander à Cédric, mais vas-y.
Sofiane Guitoun, François Trinduc, Aurélien Rougerie, Mathieu Bastaro, et c'est à l'initiative de Diego Sartou qui est quand même suivi, alors qu'il y a un pseudo sur Instagram, mais qui est suivi par plus d'un million de personnes.
Tu vas pas jouer toi Cédric hein?
Non, ils ont tenté. comme vous le savez, je sors d'une opération, une prothèse de hanche.
C'est une nouvelle hanche.
Exactement. Donc non, je vais pas jouer. Je vais essayer de coacher, qui est une première pour moi à ce niveau. Mais c'est très bien. Honnêtement, il y a une ambiance qui est folle. En plus, Il y a la finale de l'UBB cet après-midi. S'ils ont la chance de gagner, nous, si on a la chance de gagner, ça peut être une belle fête du rugby. Mais sur le spectacle, je pense qu'il y aura du, il y aura du spectacle sur, sur la pelouse. En tout cas, les garçons sont sérieux, on s'est bien préparé. Ouais. C'est cool, mais c'est dément, hein, l'ampleur que ça prend. Parce que quand ils nous ont contactés, Laurent Ferrer et moi, pour entraîner, au début, on savait pas trop dans quel état on allait trouver des joueurs. Rugby, pas trop rugby. Alors, on a 15, 17 joueurs qui savent vraiment jouer au rugby. Après, on a des novices. Mais ils ont été sérieux. On leur a demandé de se préparer.
Découper. Mais non, mais c'est adapté. C'est en fait deux équipes de 10 joueurs. Deux équipes de 10 joueurs et c'est trois périodes de 20 minutes.
Ouais. Non, mais, pour vous donner quelques règles, on va plaquer en dessous de la ceinture. Il y aura pas de plaquage haut. Les mêlées seront pas disputées. Et après, bon, après, c'est les règles de rugby classiques.
Ok, Cédric. Bah, écoute, on va suivre ça avec intérêt. Bravo, félicitations. Allez les Bleus, hein, parce qu'on a quand même
à
faire respecter Crunch Creator. Allez, on zappe rapidement. Je voulais juste qu'on écoute les Montpellierains vainqueurs hier du Challenge Cup face au Ulster, vainqueur 59-26. Troisième sac pour les Héroltais dans la compétition. Tiens, je voulais qu'on écoute Alexandre Béconnier, troisième ligne homme du match.
Je pense qu'il est encore plus savoureux quand on a connu des heures un peu plus compliquées. On a été pas loin du fond du panier et on a côtoyé un peu, excusez-moi du terme, mais la merde. Ça montre aussi une force de caractère qui nous ressemble. On est résilient, on prend notre mal en patience, on se sublime. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est toujours important de remporter un titre, bien évidemment, mais celui-là, il fait du bien à la tête, il fait du bien au groupe. Et il fait du bien aussi un peu à l'ego, parce que ça montre aussi qu'on n'était peut-être pas forcément à notre place à ce moment-là et qu'on a su relever la tête et être meilleur, une meilleure version de nous.
Voilà, ils deviennent encore main du nombre de victoires avec Clermont et l'Harlequins, les Montpellierains. Et on va parler de la finale de la Champions Cup dans un instant entre l'UBB et le Leinster. Tiens, c'est le moment de vous inscrire à notre jeu pour tenter. Waouh! Bah dis donc, ça c'est un jingle. Pour tenter de remporter 10 000 euros et le pack Coupe du Monde, vidéo projecteur plus maillot des Bleus plus ballon officiel plus boîte de Lego du trophée, venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Envoyez dès maintenant liste au 732-16, liste au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Dans un instant, on va parler tennis. Roland Garros débute demain et il y a certains joueurs qui sont pas contents. On va voir ce que vous en pensez avec Simon Dutin, avec Alizé Cornet, avec Marion Bartelier, Jérôme Pinot et vous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.